I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Et bienvenue dans le Club des Restaurés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec Samantha. Bon, tu peux te présenter, même si je pense que les personnes qui suivent le podcast t'ont déjà écouté.
Ok, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Samantha, je suis psychologue clinicienne du développement. Voilà, développement signifie que je suis spécialisée dans l'enfant et l'adolescent.
Aujourd'hui, on voulait parler du psychotraumatisme. C'est un mot super vaste. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, s'il te plaît ?
Oui. Alors, on parle de psychotraumatisme ou de stress post-traumatique ou de trauma. Voilà, tous les trois mots que je viens d'évoquer, c'est la même chose, en fait. C'est le même phénomène. Et avant de vous parler du psychotraumatisme, je pense que c'est important que je puisse vous expliquer ce qu'est un événement traumatique. Parce qu'on ne peut pas parler de psychotraumatisme sans parler de l'événement, finalement. Donc l'événement traumatique, c'est un événement qui est soudain, qui est brutal. C'est une exposition à la mort, donc c'est-à-dire que la personne se voit en train de mourir. C'est une exposition à la menace de mort, la personne a l'impression qu'elle va mourir. C'est une blessure grave ou des violences répétées. Donc quand je dis violence, je parle vraiment de tout type de violence. Violence psychologique, verbale, physique et sexuelle. Et le dernier, en tout cas, facteur pour vraiment parler d'événements traumatiques, c'est que c'est un vécu subjectif, en fait, d'un événement. Deux personnes qui font face à un même événement.
Ok.
Une personne peut être traumatisée et l'autre non.
Oh, ok.
C'est un vécu subjectif, en fait.
Ok.
Ça, c'est très important de l'avoir en tête. Pour pas justement minimiser, en fait, l'impact psychologique que l'autre peut avoir. En disant, bah, c'est rien, t'as juste assisté à... C'est rien, on t'a juste dit que c'est rien, c'est juste ton argent qu'on a pris, mais tu sais pas ce que ça peut signifier pour la personne.
Ok, donc c'est pour ça qu'on dit vécu subjectif.
Exactement.
Ok, et donc tu disais au début que ça vient d'un événement ?
Oui, c'est un événement, on appelle, oui voilà, c'est ça, un événement traumatique. D'événements traumatiques, on peut parler également de scènes traumatiques.
Et c'est pas obligé que ce soit dans l'enfance, là, c'est durant toute ta vie, en gros, tu peux avoir des événements traumatiques.
Exactement. Juste que l'impact va être plus fort dans les 5 premières années de l'enfant.
C'est vrai?
Parce que l'enfant est en développement. Et forcément, étant donné que son appareil psychique n'est pas encore mature, et ben l'impact psychologique va être encore plus fort.
Okay,
c'est pour ça qu'il est important de pouvoir... traiter au plus tôt une personne, un enfant qui fait face à un événement traumatique pour éviter justement le stress post-traumatique, le psychotraumatisme. Pour pas nous perdre, je vais rester sur le psychotraumatisme.
Mais du coup, comment moi je sais que j'ai eu un événement traumatique ? Comment j'arrive à le décrire ? Comment est-ce que ça se voit mentalement, physiquement ? Je ne sais pas si ma question elle est bonne, parce que comment moi, par exemple, je ne sais pas, je peux le savoir, que là, ok, je fais face à un choc, ou un, pardon, à un événement un événement psychotraumatique.
Comment ça va? C'est que il faut savoir que lorsqu'une personne vit un événement traumatique, la personne peut être choquée émotionnellement. C'est-à-dire qu'elle va avoir les mêmes symptômes qu'un stress post-traumatique, mais ces symptômes-là vont durer moins de 6 mois, selon en tout cas voilà, le diagnostic en psychologie
okay,
du
moi...
stress post-traumatique. Moins de 6 mois. Et pour parler en tout cas du psychotraumatisme, on va parler, en tout cas on va poser le diagnostic quand la personne a donc les symptômes depuis plus de 6 mois. Donc comment savoir qu'une personne a fait face à un événement traumatique?
Oui.
La première des choses, le premier indice, c'est la relation que j'ai avec l'autre.
Oh,
Parce
okay.
qu'une personne qui a fait face à un événement traumatique fait face en fait à une déconnexion avec la réalité, une déconnexion avec son sentiment de sécurité. Et donc, elle fait face à une déconnexion et cette personne, elle a l'impression d'être constamment en insécurité. Donc, pour prendre vraiment l'extrême, des extrêmes, ça va être des personnes qui vont être soit très, très, très introverties, dans le sens où elles vont avoir du mal à créer des liens avec les autres. Ou alors, ça va être des liens, mais des liens très superficiels. Ou alors, au contraire, c'est que ces personnes-là vont créer des liens avec tout le monde. Parce que pourquoi? Parce que la barrière de sécurité n'existe plus. Donc, elle ne sait pas, elle ne sait plus lorsqu'elle est en danger et elle ne sait plus lorsqu'elle elle est en sécurité. Il y a un dérèglement en fait dans son système nerveux. Parce que une personne qui est bien constituée en tout cas psychiquement dans son système nerveux, c'est qu'elle elle va avoir la capacité de traverser 3 états de manière fluide à chaque fois. Par exemple, je vais m'expliquer. Dans le système nerveux, il y a trois, on va parler de 3 états. L'état où justement on se sent totalement en sécurité, où je sais pas, par exemple, tu es chez toi, tu es posé, voilà, tranquillement, tu viens de rentrer du journée de travail ou de l'école, voilà, tu es posé dans ton canapé, voilà, tu es en totale sécurité. Ensuite, on va parler de l'état où tu prends la voiture ou tu prends ton vélo, donc forcément, tu dois avoir quand même un minimum de vigilance.
Ok.
Voilà, t'as un minimum de vigilance parce que tu dois regarder les voitures autour, les rétros, etc. Et puis, on va parler d'un troisième état où là, par contre, c'est lorsque tu fais face à un événement qui est choquant et donc, du coup, tu peux te figer. Tu peux te figer, tu peux rester sidéré. Tu peux te figer, rester sidéré ou alors être dans la fuite ou alors te débattre.
Okay.
Et en fait, ce qui a été démontré, c'est qu'une personne qui est normalement constituée psychiquement va avoir cette facilité, en fait, à passer d'un état à un autre de manière fluide, comme je l'ai décrit là.
Oui, ok, ouais, je vois.
Ou lorsque la personne est en train de s'endormir, par exemple, eh ben, elle peut être aussi dans un état où elle se sent en sécurité, mais peut-être dans le deuxième état que j'ai cité tout à l'heure de vigilance. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines, elle pense à certaines choses, etc., avant de s'endormir. Voilà. Donc, il peut y avoir aussi, à certains moments, des états mélangés.
Ok. Et donc, une personne qui a vécu un événement psychotraumatique, elle peut être, elle, au lieu de passer de manière fluide, elle peut être bloquée. Tu me dis si j'ai tort, hein. Elle peut être bloquée dans un de ces 3 espaces.
Exactement.
Ok.
Exactement ça.
Donc, en gros, tu m'as dit le premier, c'est chez toi, donc ta safe place, ta zone de confort.
Exactement.
Le deuxième, c'est quand tu vas sortir de chez toi.
Oui.
Enfin, c'est très vaste ce que j'ai dit. Quand tu vas sortir de chez toi, quand tu vas être emmené finalement à voir l'autre.
Oui.
Le dernier, c'est quand tu es dans une situation de danger.
Exactement.
Ok.
C'est ça.
Et par rapport à ces 3 états-là, est-ce qu'il y a des manières différentes de les traiter?
Est-ce qu'il y a des manières différentes de les traiter?
Oui, ou c'est on les traite tous de la même façon?
Oui, souvent, très souvent, quand la personne, elle vient de vivre un événement traumatique. Mais en tout cas, quand la personne vit un événement traumatique et qu'elle est dans un choc émotionnel ou un stress post-trauma, elle est soit dans l'état de mobilisation, donc l'état de vigilance.
Ok.
Soit elle est dans l'état de stress, finalement, de déconnexion, en fait. D'immobilisation. Voilà, on va les appeler comme ça. On va appeler la safe place, mobilisation et immobilisation. Et donc, du coup, quand une personne fait face à un événement traumatique, soit elle est dans un état de mobilisation, donc hypervigilance constante, ou soit dans un état d'immobilisation. C'est-à-dire que ça va être des personnes avec lesquelles, souvent, il ne va rien se passer. C'est-à-dire que tu vas regarder la personne et tu sens que le regard de la personne est vide, tu sens que la personne, elle est totalement dans ses pensées. Pourquoi? Parce qu'elle est totalement déconnectée. Alors que contrairement à la mobilisation, la personne, tu vas voir que elle va regarder partout. Elle aura besoin d'être dans l'action. Elle aura besoin de beaucoup parler. Donc, elle sera très volubile.
Ok, je vois.
Et lorsqu'elle se trouve dans l'état d'immobilisation, le travail déjà va être en sorte de la réanimer, de la reconnecter. Première des choses. Parce qu'une personne qui est dans cet état-là, elle est complètement déconnectée. Elle est dissociée. Donc le premier travail, ça doit être de la reconnecter. Reconnecter à ses émotions, reconnecter à ce qu'elle peut aimer. Et quand, en tout cas, comment dirais-je, quand on a ce type de personne en entretien, ça va déjà être de pouvoir créer un lien, en fait, tout simplement de confiance. Simplement. Parce qu'une personne qui fait face à un événement traumatique, eh ben, ce lien de confiance, ben, elle l'a plus.
C'est vrai, c'est vrai. Et est-ce que tu aurais, par exemple, un exemple d'événement traumatique qui fait qu'une personne pourrait être, totalement, entre guillemets, dans la mobilisation?
Ok. Dans la mobilisation, donc deuxième état, pas l'immobilisation.
Bon, après, on peut faire les deux, comme ça, les gens aussi comprennent.
Ok. Alors, une personne qui est dans la mobilisation, peu importe l'événement traumatique, hein, comme je le disais tout à l'heure, vu que c'est un vécu subjectif. Mais par exemple, on peut prendre une personne qui a été victime violence physique. De violence physique. Une personne qui a été victime de violence physique. Donc une personne qui est dans un état de mobilisation constante, c'est une personne, lorsqu'elle va sortir, qui va se retourner constamment parce qu'elle a peur donc de se faire agresser de nouveau, parce qu'elle a l'impression que cet événement va se répéter. En entretien, comme je te disais, c'est qu'une personne qui va vraiment être dans l'action, mais une action qui est totalement désordonnée. Donc c'est-à-dire qui peut passer finalement d'une conversation à une autre, d'un sujet à un autre, qui, comme je te disais tout à l'heure, est très volubile, qui va avoir envie de, qui s'agite sur sa chaise, qui ne pourra pas rester en place, voilà, qui aura besoin en fait d'être en mouvement.
Ok, ouais, c'est enfin avec des exemples pour moi c'est beaucoup plus clair.
Ok.
Ouais, là pour moi c'est parfait, j'ai vraiment compris. Ok, ça marche. Et donc là c'est la personne en
Mobilisation.
mobilisation, oui, celle qui est tout le temps en mouvement.
C'est ça.
Et donc le second cas.
Second cas, l'immobilisation. Donc, ça va être une personne, au contraire, comme je te le disais, c'est qui est totalement immobilisée psychiquement, en fait. Elle est totalement immobilisée psychiquement, c'est-à-dire que, comme je te le disais, c'est une personne qui est déconnectée. Donc, tu vas lui parler, elle va pas forcément être dans le moment. Dans l'entretien, ça va se traduire par beaucoup de moments de silence. Ça va se traduire aussi où tu sens vraiment la personne, elle est. C'est vraiment pas péjoratif, hein, le mot que je vais utiliser, mais tu sens que la personne, elle est vide, qu'il n'y a plus rien.
Ouais, qu'elle est loin, quoi, finalement.
Exactement. C'est même pas qu'elle est loin. Oui, on peut dire ça parce que par moments, c'est que vraiment, il y a rien. C'est même de son côté, c'est vraiment le blanc total. Il y a pas de pensée. Il y a plus de pensée. Parce qu'à un moment donné, lors de l'événement traumatique, justement, le stress était tellement important que le cerveau va éteindre les capacités émotionnelles pour t'éviter de penser. Parce que si tu penses à ce moment-là, tu peux réellement faire un arrêt cardiaque.
Bah, c'est une
Donc
manière
c'est
pour elle de se protéger, du coup.
comment?
C'est une manière pour la personne qui est dans cet état de mobilisation de se protéger. Si
Exactement.
elle, si elle est loin un petit peu, c'est une manière de dire, OK, bon, bah là, ça va, entre guillemets.
Exactement. Exactement. Et il y a des personnes qui restent dans cet état-là pendant très 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 longtemps. Parce que
Wow.
pour eux, comme tu dis, c'est un mécanisme de défense, en fait. Ils y trouvent des bénéfices secondaires parce que ça les évite justement de pouvoir avoir comment dirais-je, ressentir les douleurs et les souffrances qu'elles ont pu ressentir pendant cet événement traumatique, ou qu'elles pourraient ressentir. Ou qu'elles pourraient ressentir. Parce que certaines personnes, durant l'événement traumatique, en fait, ne sentent rien. Parce qu'elles sont déconnectées
C'est
à ce
ça.
moment-là.
Donc en fait, le psychotraumatisme, ça va de cause à effet. Et du coup, enfin, je ne sais pas comment dire, mais il n'y a pas de temps, c'est pas, il n'y a pas de prescription, ça peut toujours te toucher. C'est-à-dire que, par exemple, comme on a pris la dame, enfin, on a pris une personne qui se faisait battre. Elle avait tous ses systèmes de enfin, elle, par exemple, elle était mobilisée, elle avait ce système de défense-là. Ça se trouve, elle a vécu ce drame il y a peut-être 15 ans. 15 ans plus tard, enfin, est-ce que elle a toujours été dans ce de ces de 15 ans à maintenant, elle a été dans ce sommeil mobilisation, ou est-ce que c'est parce que il y a eu un truc, elle a vu un truc à la télé, etc., que là, ça s'est réveillé en elle? Ou c'est toujours là en toi? Je ne sais pas comment expliquer. Du A au drame jusqu'à maintenant, ça peut faire 15 ans ou 5 ans. Est-ce que, enfin, je sais pas, le déclencheur est toujours là, ou c'est quelque chose qui te déclenche? Enfin, je ne sais pas si tu m'as compris.
Tu sais, tu disais en fait, le corps part toujours, parle toujours, pardon.
Ok, oui.
Le corps part toujours, mais ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, comme je te disais tout à l'heure, c'est que la scène traumatique engendrant la mémoire traumatique et le stress post-traumatique peut être enfui et ressortir des années plus tard.
Ok, ouais.
C'est-à-dire que la scène traumatique, elle est là. Elle est là, on peut l'illustrer comme elle est là, elle se trouve dans un placard. Et il est possible que oui, que ce soit un élément déclencheur extérieur qui vienne réouvrir sur la scène traumatique et donc déclencher la mémoire traumatique, avec tous les symptômes, etc. Et puis engendrer un choc émotionnel ou un stress post-traumatique. C'est possible. Mais il est également possible que ce soit un élément déclencheur interne par les hormones, parce qu'on le voit souvent avec les adolescents ou les adolescentes qui ont été victimes, par exemple, de violences sexuelles. Souvent, la mémoire traumatique ou la scène traumatique va se réveiller lorsqu'elles vont passer, en fait, par l'adolescence. Pourquoi? Parce que leur corps change. Parce que maintenant, on ne parle plus de la sexualité enfantile, mais on parle maintenant de la sexualité, en tout cas en tant que telle, voilà, en tant qu'adulte. Donc, ce qui se passe chimiquement dans leur corps peut activer, peut réouvrir sur cette scène traumatique. Mais effectivement, oui, ça peut être également des éléments déclencheurs, comme voir une dispute ou entendre ce mot-là à ce moment-là. Voilà, donc ça peut être élément déclencheur interne et externe. Et ça peut être aussi le fait que la personne se sent maintenant suffisamment en sécurité, suffisamment forte pour pouvoir laisser cette scène traumatique sur le devant de la scène.
Ok. Oh, ok, je vois. Ok, non, c'est bon, j'ai compris. Tu as répondu à ma question. Et quand tu es dans l'immobilisation ou la mobilisation, toi, quand par exemple quelqu'un, cette personne, ces personnes-là arrivent, viennent te voir, arrivent à ton cabinet, tu les accompagnes. Parce que si la personne, par exemple, qui est en mobilisation, donc c'est celle qui ne va pas bouger, qui, normalement, ses idées sont loin. Enfin, moi, je l'ai gardé comme ça dans ma tête.
Immobilisation? Ok, immobilisation, c'est les idées loin. C'est
Ok.
immobilisation.
Mobilisation, c'est des idées loin. Comment toi, tu vas chercher ce premier contact? Parce que je ne peux pas arriver, par exemple, si c'était moi, je ne peux pas arriver dans ton cabinet Et je m'assois seulement. Comment tu vas tirer l'information? Comment tu vas tirer le fil rouge jusqu'à aller à cet événement-là? Et comment tu vas traiter cette histoire?
Ok. Alors, comme je te disais, c'est que ça peut se faire en plusieurs fois. Ça peut se faire en plusieurs séances. Tout dépend en tout cas de chaque personne. Et la première des choses, comme je te le disais un peu plus tôt dans l'échange, c'est déjà de construire un lien de confiance. Donc, c'est déjà de pouvoir que la personne se sente déjà accueillie, que la personne se sente attendue. Et c'est des petites choses, tu vois, mais c'est-à-dire que rien que je sais pas, c'est-à-dire que rien que ton bureau soit accueillant, en fait, que ta pièce soit accueillante et que toi, tu aies une posture aussi où tu es bienveillante et que la personne, elle discerne, elle voit que, OK, cette personne, elle m'attendait et je sens aussi que, voilà, malgré ce que j'ai pu vivre, je sens quand même qu'il y a une petite différence. Même si elle ne va pas le voir, la personne, même si elle ne va pas voir ça directement, ou même si elle ne le dira pas et qu'elle sera dans cette lutte où forcément une personne m'a fait du mal, donc une personne que je ne connais pas, ni d'Adam ni d'Ève, elle peut aussi me faire du mal. Donc forcément, elle sera dans cette lutte-là. Mais la première des choses, c'est de pouvoir déjà accueillir cette personne-là et la voir en tant que personne. Ne pas la voir en tant que victime d'eux.
Ah, ouais,
Et la
d'accord.
voir en tant que personne. Une personne qui va venir te raconter son histoire. Une personne qui est en souffrance. Alors, c'est pas directement. Après, c'est vrai que je peux me permettre de le faire lorsque je suis à l'association d'aide aux victimes, parce que les personnes victimes savent très bien pourquoi elles viennent. Donc, c'est-à-dire, avec certaines personnes, je peux me permettre directement de dire, OK, bah voilà, je vous écoute. Pas forcément sur ce qui s'est passé, mais voilà, commencez par où vous voulez. Pour certaines personnes, ça ne fonctionne pas et on a besoin de construire en fait un lien. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Voilà. Donc il y a deux cas de figure. Donc c'est déjà l'accueil. Construire un lien de confiance. Et c'est comme ça que progressivement, on va reconnecter la personne, en fait. Parce que comme je l'expliquais, c'est que la personne, elle est loin. La personne, elle est loin. Elle est dans son monde à elle. Et pour pouvoir déjà la ramener, pour la ramener déjà en tant que sujet. Et de dire, OK, bah, moi, je suis là. Moi, je m'intéresse à vous. Alors, voilà, parlez-moi. Et si même on ne parle pas, bah on fait un jeu. Si même on ne fait pas de jeu, bah écoutez, ouais, qu'est-ce que vous écoutez comme musique en ce moment? Ah ouais, c'est ce qui vous plaît? Ah ok, bah attendez, moi je ne connais pas du tout, bah on va écouter ensemble. Ou alors, bah, je regarderai plus tard et tout, je vais regarder les paroles, tout ça. S'intéresser à elle.
Bah, c'est l'emmener dans sa zone de confort à elle, du coup. C'est lui montrer de l'intérêt.
Oui.
Okay.
C'est ça, parce que quand tu vis un événement traumatique, on t'a montré aucun intérêt. On n'a pas respecté ta volonté.
C'est vrai, c'est vrai,
Tu
c'est
as
vrai.
dit non. Dans certains cas, la personne a pu dire non. Dans d'autres, elle n'a pas pu verbaliser le non, mais elle n'était pas d'accord. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas écouté, on ne l'a pas entendu. Et c'est pour ça que ça va ouvrir, ça va. Ça va, oui, ça va ouvrir sur justement des dénigrements de soi, des personnes qui vont se dévaloriser. Parce qu'elles vont se dire, bah, de toute façon, on ne m'a pas entendu à ce moment-là, alors pourquoi on m'entendrait demain? Alors pourquoi une personne qui me traite mal, pourquoi pas rester avec ses inconscients? Pourquoi pas rester avec elle? Parce que de toute façon, c'est ce que je mérite. On ne m'a pas entendu. Donc voilà, c'est premièrement, voilà, s'intéresser à elle et progressivement ouvrir justement sur les émotions qui ont été au devant de la scène pendant cette scène traumatique. Les comportements aussi. Ou si ce n'est pas ouvrir directement sur les émotions et les comportements qui sont directement liés à la scène traumatique, c'est de venir dire, bah, OK, bah, comment vous allez en ce moment? Vous dormez bien? Non, je dors pas bien. Ok. Des troubles d'endormissement, vous avez du mal à vous endormir? Oui, j'ai du mal à m'endormir. Ok. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous vous endormez? Bah, c'est bizarre parce que la journée, je suis occupée, etc. Mais le soir, c'est à ce moment-là que j'ai des flashs et des images. Ok. Parlez-moi un peu de vos images. C'est quoi que vous avez? Et puis progressivement, voilà. On rentre progressivement. Après, pour certaines personnes, comme je le disais, on peut y aller directement. De parler la scène traumatique. Mais le but, ce n'est pas de faire revivre à la personne cette scène traumatique. C'est pas ça le but. Le but, c'est pas de la bloquer de nouveau. Donc c'est pour ça que c'est très, 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 très important de pouvoir être à l'écoute et dans l'analyse du langage verbal et non verbal. C'est très, très important. Mais ne pas avoir peur de dire les mots. Ne pas avoir peur de dire les mots.
C'est super intéressant. Et là, c'était pour l'immobilisation. Et pour une
Ouais.
personne immobilisée, c'est un petit peu le même processus.
Alors, pas complètement, parce que la personne mobilisée, déjà, elle est plus active. Déjà, elle est plus active. Donc, ce qu'on va faire progressivement, c'est de pouvoir finalement la ramener dans un état, dans son état safe, et lui montrer qu'il est possible de pouvoir revenir dans un état, en fait, où tu te sens totalement en sécurité. Donc ce sera pas le même processus, parce que cette personne, elle est déjà sortie de l'immobilisation. Donc c'est-à-dire que elle commence déjà à se réapproprier sa personne, à se repenser en tant que sujet qui aime telle chose, sujet qui peut prendre telle décision, sujet qui peut s'opposer aussi, et poser ses limites. Donc le travail va être différent. Le travail va être de montrer progressivement que voilà, tu peux finalement être de nouveau totalement en sécurité. Tu peux finalement penser à... Mais ça, c'est vraiment quand tu arrives au bout de la chaîne de la mobilisation. Penser finalement que un avenir est possible, que tu peux recommencer à faire confiance aux personnes de ton entourage, que tu peux recommencer en tout cas à te projeter dans un projet professionnel. Voilà, c'est vraiment encore plus la recentrer encore plus sur elle-même. La recentrer encore plus sur elle-même, et comme je disais, voilà, lui faire comprendre que le sentiment de sécurité totale est possible malgré ce qu'elle a vécu, malgré ce que la personne a vécu.
Bah, ça en vient à la question que j'ai envie de te poser. Ça veut dire que je sais que je suis guérie quand je me sens totalement en sécurité?
Oui. Je sais que je suis guérie de ce trauma
Oui.
quand, par exemple, je me retrouve. Ok, je me retrouve dans le lieu ou dans un lieu qui me faisait penser à cette scène traumatique. Et lorsque je me trouvais avant dans ce lieu-là, j'étais totalement tétanisée. Je ne pouvais rien faire, je tremblais. Mais là, aujourd'hui, ça ne me fait plus rien.
OK.
Ou alors, lorsque je croisais un homme d'un certain âge, parce que c'était un homme de ce type-là qui m'avait agressé sexuellement, maintenant, lorsque je croise un homme d'un certain âge avec une certaine coupe de cheveux, une certaine couleur de cheveux, ben, je n'ai plus peur. Et maintenant, même lorsque je croise cet homme-là, si je, voilà, par hasard, je peux le croiser, et ben, et que je n'ai plus peur, et que c'est plus cette petite fille qui prend le devant, mais c'est cette fille, cette femme adulte ou cet homme adulte qui comprend maintenant que voilà, elle a que j'ai grandi, ok, que j'ai grandi, que maintenant je suis plus cette petite fille ou plus ce petit garçon qui avait souffert à ce moment-là. Ben, j'ai plus peur en fait. J'ai plus peur d'affronter cette personne parce que j'ai compris. J'ai développé avec les ressources internes et externes, j'ai pu redévelopper finalement, oui, un sentiment de sécurité.
Et est-ce que finalement, là je vois des. Enfin, c'est pas peut-être. C'est une image que j'ai, mais tu peux me dire si j'ai faux, hein, totalement faux. Je vois les événements psychotraumatiques finalement comme une petite prison. Tu t'enfermes quelque part. Et finalement, tant que tu ne te sors pas de cette prison, toute ta vie, tu vas ressasser les mêmes choses. C'est toi qui ne vas pas avancer, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Malheureusement, pardon, c'est ça. Et pour revenir à ta question, c'est que la résilience, ce que tu as dit, enfin, ce qui montre qu'on est totalement guéri, aussi qu'une personne est totalement guérie, c'est qu'elle aura la capacité de, bah, comme je te l'expliquais, de passer par ces trois états de manière fluide, à nouveau, ou pas, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont jamais pu être dans cet état bah, psychique équilibré. Parce que dès l'enfance, elles ont fait face à un environnement défaillant, etc. Mais la personne est totalement bah, guérie lorsqu'elle peut passer d'un état à un autre de manière fluide. Mais oui, sinon, pour revenir à ce que tu disais, ouais, c'est ça, ouais, c'est comme une prison.
Et comment je peux, je ne sais pas si il n'y a que des personnes compétentes qui peuvent te guérir de, enfin, t'emmener vers la guérison pour que tu te sentes en sécurité. Mais est-ce que toi-même, si un jour je me lève, je me dis, OK, je sens que j'ai eu un psychotraumatisme sur tel événement ou un événement psychotraumatique plutôt, comment je peux faire pour m'auto-guérir? Je ne sais pas si ça peut exister, mais faire ce pas vers la guérison. Enfin, est-ce que je dois faire une introspection? Si oui, comment je peux la faire?
Après, oui, hein, tout est possible. C'est déjà de savoir, ok, prends ton cahier, prends un stylo. Je me sens comment? Ok. Lorsque je pense à cet événement-là, je me sens angoissée, j'ai une sensation d'étouffement, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de vomir. Tac. Écrire tout ce qui se passe à ce moment-là. Et peut-être pendant que tu es en train d'écrire tout ça, il y a certaines scènes traumatiques en fait aussi qui reviennent. Un vêtement, une couleur, tac, 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 tac. Ok. Une fois que tu as écrit tout ça, comme je disais, c'est que peut-être finalement qu'il n'y a jamais eu un avant après dans ta vie. Dans le sens où, si tu as grandi avec cette scène traumatique-là, ça veut dire que ton comportement a toujours été modifié et n'a jamais été le tien en fait.
Wow,
Donc ça veut dire que.
une vie, tu vis un événement, je sais pas, à 5 ans, et peut-être que tu joues un rôle jusqu'à maintenant, du coup. Bah peut-être, bah.
C'est possible sur certains. Je ne dis pas sur tous les aspects. Hein. Je ne dis pas sur tous les aspects. Mais sur certains aspects, oui. Sur certains aspects de ton caractère et comportement, oui. Et puis tu sais, on sait très bien déjà en tant que chrétien aussi que lorsqu'on cherche notre identité en Christ, on comprend qu'il y a certains comportements que nous avions qui n'étaient pas notre comportement, qui ne correspondaient pas au comportement que Dieu nous avait donné, au caractère que Dieu nous avait donné en fonction de ce que nous sommes et en fonction de l'appel que nous avons.
C'est vrai.
Pourquoi? Parce que au-delà d'avoir vécu des événements traumatiques, nous avons côtoyé des personnes, on a reçu une éducation, on a été dans un cercle social, un cercle scolaire, comme je disais, voilà, on a rencontré des personnes en vacances ou dans les magasins, enfin, plein de choses. Et déjà même en dehors du fait qu'une personne ait vécu un événement traumatique, déjà ton caractère est biaisé. Ta personnalité, déjà, elle est biaisée. Et c'est seulement lorsque tu rencontres Christ que tu retrouves réellement ton identité et que tu retrouves réellement ton caractère, ta personnalité et les comportements qui vont avec, selon ce que Dieu t'a donné. Donc, d'autant plus avec une scène, un événement traumatique qui t'a blessé dans ton identité et qui voulait te perdre, surtout dans ton identité et dans ta relation à l'autre. Je vais pas commencer à prêcher, mais les deux commandements, c'est
Non, mais tu peux.
deux commandements les plus importants, c'est aime Dieu et aime ton prochain. Donc forcément que quand tu aimes Dieu, Dieu va te montrer qui tu es. Et on sait que également, c'est que s'il nous a créés par milliers et par milliards, c'est parce que nous avons besoin des uns et des autres. Mais si toi déjà, par cet événement traumatique, t'as été blessé et que forcément dans tes relations, ça se reflète, comment vas-tu avancer? Comment tu vas avancer? Parce qu'on sait qu'on n'avance pas tout seul.
C'est vrai.
Donc oui, malheureusement, c'est malheureux, c'est triste, mais oui, c'est lorsque tu fais face à un événement traumatique qui est pas traité, eh ben, ça impacte sur ton comportement, en fait. Et tu n'es tu, tu, oui, tu vis une vie qui n'est pas réellement la tienne. Malheureusement, sur certains aspects, hein. Sur certains aspects. Après, pour certaines personnes, ça peut être sur tous les aspects, mais sur certains aspects, quand on peut prendre l'environnement familial, social, bah aussi spirituel, donner une image que tu n'es pas dans ton église.
Bah, c'est vrai. Parce que je vois ça comme bah, finalement, c'était comme une blessure. Enfin, c'était ton histoire. Enfin, c'était pas ton histoire. C'est l'événement qui s'est passé qui t'a créé une blessure. Et cette blessure, ça devient comme finalement une prison spirituelle pour toi. Ça devient comme une prison spirituelle et tu ne peux plus bouger, tu es bloqué.
Et tu penses que justement que cette prison, c'est ton quotidien, parce que cette prison te fait penser, hein, cette prison te fait penser que tu as besoin d'elle, d'elle pour vivre, tu sais que tu as besoin d'elle pour avancer. Mais finalement, c'est vraiment une illusion, parce que tu n'avances pas. Tu as l'impression d'avancer, mais tu n'avances pas. Pour continuer et revenir sur comment une personne, en tout cas, peut trouver son chemin vers la guérison, c'est de vraiment, voilà. Prendre le temps d'écrire ce que la personne peut ressentir lorsque il y a une scène traumatique ou voilà des images qui reviennent. Et puis prendre le temps aussi d'analyser finalement son comportement et sa relation à l'autre. Ça, c'est un indice qui peut être très, très, très important. Analyser sa relation à l'autre. Est-ce que je suis réellement vraie dans ma relation à l'autre? Qu'est-ce que je ressens lorsque je rencontre l'autre? Est-ce que j'ai le besoin de lui plaire mais un besoin vraiment surdimensionné. Ou au contraire, je fuis les femmes. Je ne sais pas pourquoi. Je suis une femme. Moi, je suis une femme. Mais je fuis les femmes. Je me rends compte que j'arrive pas. Je me rends compte que même dans le domaine du travail, je n'arrive pas. Pourquoi? Pourquoi je n'arrive pas à porter un enfant dans les bras? Pourquoi je n'arrive pas à prendre un bébé dans les bras? Pourquoi? Pourquoi je n'arrive pas à regarder, oui, même une femme porter un bébé, pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi ça me gêne lorsqu'un homme porte un enfant sur ses genoux? Pourquoi ça me gêne? Donc voilà, c'est toutes ces questions-là que cette personne peut se poser. Et bien sûr, si cette personne-là est chrétienne, elle peut demander au Saint-Esprit de pouvoir l'aider, de pouvoir l'orienter. Et si cette personne-là n'est pas chrétienne, en tout cas, voilà, faire comme j'ai dit, pas à pas, et puis de pouvoir avancer. Et surtout, l'entourage. Comme je disais, c'est que la personne qui a vécu un événement traumatique est déconnectée, donc elle a besoin d'amour. C'est peut-être bateau, hein, mais. Et c'est là que je me suis rendu compte, j'avais une formation dernièrement, et justement, c'est ce que la psy disait, c'est que une personne qui a vécu un événement traumatique, en fait, elle a besoin d'amour. C'est pour ça que c'est important de pouvoir se tourner vers les bonnes personnes. Et si tu n'arrives pas, si tu n'as pas des personnes vers qui te tourner, parce que je sais pas, parce que tu es dans un foyer, ou peut-être parce que tu es à la rue, on ne sait pas, peut-être que tu vas écouter ce podcast, j'en sais rien, je ne sais pas comment. Mais tu sens qu'il y a personne vers qui tu peux te tourner, pardon. Ben, il y a toujours des associations. Il y a toujours des associations qui peuvent t'aider. Ben, moi, je travaille dans une association d'aide aux victimes. Donc, n'hésite pas, il y en a dans tous les départements. Tu as des associations aussi, voilà, si c'est pour violence conjugale ou sexuelle. Il y a ce qu'on appelle Solidarité Femmes, CIDFF, voilà. Il y a plein d'associations, donc n'hésite pas à te tourner vers elles ou à toi-même faire tes recherches.
Il y aura toujours une oreille pour écouter, de toute façon.
Exactement.
Toujours. Mais j'en ai appris beaucoup. J'ai l'impression à chaque fois que je te vois, j'apprends. De toute façon, on est là pour ça.
Ouais.
Le psychotraumatisme.
Ouais.
Et donc, c'est vraiment, finalement, pour finir, c'est quelque chose à traiter. On ne peut pas le laisser passer. Dans la vie même d'un chrétien, c'est quelque chose à traiter.
Oui,
Obligatoirement.
oui. Oui, parce que je me faisais la réflexion justement il n'y a pas longtemps, c'est vrai que Christ nous donne le salut. Et il faut pas oublier qu'il a dit aussi que j'enverrai mon esprit aussi et qu'il va restaurer les cœurs brisés. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette parole-là, tu vois? Parce que certaines personnes, on va prier pour Seigneur, restaure mon cœur. Mais on se rend compte que ça fait des années qu'on prie ou des mois qu'on prie et. Il y a rien, y a, enfin, y a rien qui se passe. Y a rien qui se passe. Donc oui, c'est important de pouvoir traiter ça, c'est important. Et encore une fois, pour les chrétiens, à aucun moment je veux me prétendre, ce serait un péché incroyable de me substituer à Dieu. Jamais. Jamais. Mais je pense qu'il a permis cette discipline, et surtout en fait, en ces temps dans lesquels nous vivons, il permet cette discipline justement pour que cette discipline puisse être utilisée. Et que tous tes bagages qui te pèsent depuis des années, tu puisses t'en débarrasser et que tu puisses vraiment vivre ta vie en Christ pleinement. Pleinement. Combien de personnes on peut voir autour de nous qui ont 30, 40, 50 et tu vois et tu regardes et tu te dis mince, il y a encore des choses qui n'ont pas encore été traitées. Même si cette personne est fougueux dans la foi, zélé dans la foi, des miracles, etc. Mais il y a des choses qui ne sont pas encore traitées. Donc, voilà. Donc, oui, c'est important de pouvoir les traiter, ouais.
Bah c'est ça, et c'est pour moi, ça va de tu traites ton intérieur et puis l'extérieur ira. C'est toujours comme ça que j'ai vu les choses. Si tu dois tout traiter en intérieur, parce que notre génération, elle est plus de l'extérieur. On a des bagages de ouf, mais on va, c'est comme ça, on va pas le montrer, etc. On est vraiment une génération qui, entre guillemets, cachons les choses, où on a vraiment tout mis de côté et on s'est dit que on peut faire avec. Mais à force de vouloir faire avec, c'est là qu'on devient lent, qu'on devient fatigué. Et même mentalement, c'est comme ça qu'on se crée des propres prisons.
C'est vrai, c'est un point super important que tu as touché là. On peut faire avec. Ouais.
On ne peut pas faire avec. Surtout si ça nous cause, si ça nous cause de l'immobilisation, de la mobilisation. Enfin, si on a toujours des, enfin c'est pas des symptômes, mais on a toujours un reste. On peut pas faire avec des restes pour moi. On peut pas vivre avec des restes. C'est incroyable. C'est incroyable d'en apprendre. Est-ce que tu aurais un exemple? Bah après je te demande toujours ça et j'ai l'impression que je connais la Bible par cœur. Mais un exemple d'un personnage dans la Bible qui a pu avoir un événement psychotraumatique. Et comme ça, une personne peut voir son histoire et voir comment aussi Dieu l'aide, l'a aidé.
La
Voilà.
personne, c'est un exemple, c'est un exemple assez bizarre, mais c'est le seul nom qui me vient en tête. Attends, je vais juste vérifier. Ruth qui
Oui.
a perdu son
Ouais.
mari.
Ouais, c'est bon. Ok, donc elle a perdu son mari. Elle a dit qu'elle allait vivre avec ça, elle allait suivre sa belle-mère n'importe où elle irait.
Ouais. Et je disais que cet exemple est bizarre parce que, mais là, c'est là où je vais vraiment accentuer sur l'importance de bien s'entourer, en fait, quand tu vis de tels événements. Parce que j'imagine pas la douleur qu'elle a dû avoir de perdre son mari. Parce que je pense qu'elle était jeune en plus. Et que son autre belle-sœur qui avait également perdu son mari, elle a dit, bah, c'est bon, je retourne chez moi. Tu vois? La douleur était forte, c'est bon, genre, moi je te laisse et je retourne chez moi. Alors que Ruth, malgré la douleur, elle s'est accrochée en fait à sa belle-mère. Parce que je ne sais pas comment, elle s'est dit non. Si je reste avec toi, à un moment donné, je vais recevoir une bénédiction. À un moment donné, je serai bénie. À un moment donné, je vais avoir une restauration qui va peut-être m'épater, m'étonner d'une manière incroyable. Donc c'est peut-être pour une personne, justement, qui a eu un événement traumatique. Et comme tu l'as dit, vraiment, j'insiste, parce qu'on l'entend souvent, je fais avec. Et des personnes qui viennent et qui te tendent la main. Et tu te dis, non, je fais avec, j'ai toujours fait avec. Donc c'est pas maintenant que ça va changer. J'ai toujours vécu pendant 30 ans comme ça, 20 ans, 15 ans. Donc c'est pas toi qui va arriver parce que la belle-mère... Ça peut être aussi une personne que tu ne connais pas ou que tu connais récemment, en fait. Et donc, du coup, ne te dis pas que, ouais, je continue de faire avec. Non, Ça se trouve, cette personne-là va t'aider. Elle va t'aider dans ton chemin de la restauration. Elle va t'aider pour que tu puisses avoir la guérison totale. Donc, ne néglige personne. Ne néglige personne dans ce que tu vis. Parce que, comme Inès l'a très bien dit, c'est que c'est une prison. Et on a l'impression, quand une personne vit très très longtemps en prison, et on le voit, elle a l'impression, lorsqu'elle sort de prison, même certaines personnes, souvent ça va être des récidivistes parce qu'ils ne savent pas comment vivre, en fait, hors de la prison.
C'est ça, ils savent pas se
Donc,
comporter.
comment?
Ils savent pas se comporter parce qu'ils n'ont connu que ça.
Exactement. Donc, c'est pas parce que tu as connu que ça que tu ne mérites que ça.
Yes, wow, c'est pas.
Donc, ne jette pas les mains que les gens te tendent par fierté ou parfois par honte, parfois par orgueil ou parfois par culpabilité. Ne jette pas la main de ces personnes-là. Mais aussi, je te dirais, c'est-à-dire que apprends aussi à discerner aussi les personnes vers lesquelles tu dois aller. Ruth, elle n'est pas allée vers n'importe qui. Elle est restée avec sa belle-mère. Elle n'est pas allée vers n'importe qui. Attention, je ne dis pas aux personnes d'aller vers vos belles-mamans. Et puis, ouais,
Pas contre les
parenthèse fermée, je vais pas ouvrir cette parenthèse, on n'est pas là pour ça. Mais qu'on s'entende, c'est-à-dire que belle-mère, si c'est un statut, ça peut être une autre personne.
Non, c'est fort. Et tu aurais un mot de la fin?
C'était pas le mot de la fin, ça?
Tu peux toujours en rajouter. On parle de belle-mère à la fin. Chose qui te monte à cœur ou je sais pas.
Je pense que j'ai tout dit. Bon, quand je dis je pense que j'ai tout dit, après, il y en a toujours qui vient. Mais le mot de la fin, et je pense que c'est ce que je disais déjà la dernière fois, mais j'insiste. Femme, homme, peu importe qui va nous écouter, ne te néglige pas, ne te néglige pas. Tu n'as qu'une vie. Ta vie n'est pas un brouillon. Tu n'as qu'une vie. Donc, prends les bonnes décisions. Même dans la douleur, et je sais que c'était à peu près ce que j'avais dit aussi la première fois, même dans la douleur, décide d'avancer. Tu n'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule. Il y a certaines étapes que tu devras, oui, passer tout seul ou toute seule. Mais il y en a certaines où, voilà, tu auras besoin d'être accompagné. Donc n'oublie pas, voilà, que tu n'es pas toute seule, que tu n'es pas tout seul. Et surtout, j'insiste, ne te néglige pas. Tu n'as qu'une vie. Ne te néglige pas. Et ta vie, tu dois la vivre pleinement, à fond. À fond. Donc voilà, la totale restauration.
Oui, j'aime beaucoup. C'était un plaisir d'avoir encore une fois sur ce podcast.
Plaisir partagé.
J'ai beaucoup appris et on se dit bah, à très bientôt. Du
À
coup.
très bientôt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.